Bonjour, d'histoire et de contes. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Rouchouz avec trois histoires courtes. Bonjour.
Bonjour, je vais lire trois petites histoires qui se passent dans la Drôme. L'arbre qui regarde. L'arbre qui regarde. J'ai trop chaud dans ma chambre. Cette petite chambre, nous l'avions bien aménagée, mon mari et moi. Nous nous y sentions en sécurité. Nous l'avions tapissée de paille et de brindilles, et son obscurité nous rassurait. Tout allait bien, jusqu'à ce jour tragique d'hiver où il s'est fait tuer en traversant la route. Nous étions obligés de la traverser car la crue de la Drôme nous obligeait à passer sur la route au lieu de passer sous le pont. Depuis, je suis seul. Pour le moment, je tiens à l'écart les 5 ou 6 prétendants qui veulent lui succéder. Je me réserve le printemps pour faire mon choix. Je décide de sortir et d'inspecter notre domaine, un territoire de plus d'un kilomètre de longueur que nous nous étions aménagé le long de la Drôme. De part et d'autre, du pont de Lucandioua. Il y a là une ripisylve de saules et de peupliers qui me convient comme garde-manger. Je taille leurs rameaux en biseau avec mes incisives inférieures, puis consomme leurs feuilles et leurs écorces, variant le menu avec les tiges de carex, de jonc et de roseau. Je chemine dans le tunnel d'entrée de mon gîte et plonge brusquement dans l'eau froide de la Drôme. Le froid, je ne le crains pas. Ma fourrure est abondante, avec 20 000 poils par centimètre carré disposés en 2 couches, l'une profonde de poils fins, l'autre superficielle, de jarres épaisses et longues, qui se plaquent contre moi quand je suis dans l'eau, rendant cette fourrure imperméable. Je nage dans l'eau comme un poisson, ma queue écailleuse me servant de propulseur et de gouvernail, ainsi que mes pattes à 5 doigts, surtout les inférieures, longue et palmée. Je contourne les blocs rocheux de la chute d'eau et entreprends de descendre sans effort la rivière poussée par le courant. Notre exploitation se porte bien. Les saules sectionnés l'année précédente ont tous de nouvelles pousses. Elles vont se garnir de grandes feuilles bien tendres que je pourrai consommer à loisir. Le grand peuplier sur lequel je me suis acharné est tombé dans l'eau. Sa souche, avec une taille en crayon, me plaît. Mais je me demande si je n'ai pas vu trop grand. Ici, les crues sont puissantes et le barrage que je pourrais construire risquerait d'être détruit par le courant. Bien sûr, je pourrais l'alourdir par des galets, entrecroiser les branches, l'imperméabiliser en transportant de la boue des rives dans mes pattes avant. Mais le risque est grand qu'il ne soit emporté comme celui d'il y a 5 ans. Mieux vaut attendre qu'un nouveau compagnon soit présent et viennent m'aider, à condition qu'ils soient bosseurs. Mais les gens de mon espèce le sont presque tous. Nous sommes les stakhanovistes des rivières. Je sors de l'eau 100 mètres plus bas et broute quelques feuilles de ci, de là, ajoutant aussi des brindilles au garde-manger que j'ai créé dans un coin tranquille. Il n'est que 5 heures de l'après-midi et je décide de revenir chez moi. Je remonte le courant et émerge de l'eau à 2 mètres de l'entrée de mon terrier. Quelle n'est pas ma stupéfaction de découvrir qu'en moins d'une heure, un arbre dont le tronc fait presque 2 mètres de hauteur, avec une branche latérale de plus de 4 mètres, a poussé juste à côté de l'entrée. Mais comment une telle rapidité de croissance peut-elle se produire? C'est du jamais vu. Je m'immobilise et fixe attentivement cet arbre extraordinaire. Nouveau choc pour moi. Cet arbre me regarde. Oui, vous avez bien entendu. C'est un arbre qui a 2 yeux qui me fixent. J'en suis tout retourné. Il a des yeux clairs, alors que mes petits yeux sont foncés, mais ce sont vraiment des yeux en haut de son tronc gris sombre. Je me déplace d'un mètre dans l'eau, le regard de l'arbre me suit, mais aucune de ses branches ne bouge. Bizarrement, son tronc est double près du sol, puis redevient unique, à plus d'un mètre de hauteur. Autre bizarrerie, sa branche principale, très longue et très fine, gris clair, sort du tronc par trois tiges qui n'en font bientôt qu'une. Je me déplace à nouveau de 2 mètres. L'arbre me suit à nouveau du regard. Apparemment, c'est un arbre inoffensif. Je le regarde, il me regarde. L'observation mutuelle dure plusieurs minutes. Je me demande bien ce qu'il pense. Que peut penser un arbre qui a des yeux ? Il y a une lueur de curiosité dans ce regard, alors que dans le mien, il devrait plutôt y avoir une lueur d'inquiétude. Je décide de sortir de l'eau. Nous ne sommes qu'à 2 mètres l'un de l'autre. Il est totalement immobile, statifié. Nous nous regardons à nouveau. Il ne dit mot. Il doit être muet, comme tous les arbres. J'en conclus qu'il n'est pas dangereux. Je passe 1 mètre de lui et rentre chez moi. Fatigué par cet événement insolite, je m'endors comme une souche. Le lendemain, à l'aube, je sors de mon terrier. Et, nouvelle surprise, l'arbre qui me regarde n'est plus là. Voilà un arbre qui pousse en 1 heure et disparaît en 10 heures. Ma perplexité est telle que si vous entendez cette histoire ou si vous la lisez quelque part, vous pouvez m'écrire à Le Castor, gîte du Pont, office de tourisme de Lucandiois, 26 310 Lucandiois. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, car tous les castors sont branchés à castor.lucandiois@rongeur.com. J'aimerais bien avoir d'autres renseignements sur les arbres qui regardent. The L'imposante falaise calcaire du Titonic, des gorges de Saint-Moiran, pointe vers le haut, à plus de 1000 mètres d'altitude, redressée à la verticale. En dessous, bancs calcaires et marnes alternent. Il y a plus de 100 millions d'années, ces bancs étaient horizontaux et marins. Maintenant, ils sont terrestres et verticaux, car de longues poussées accompagnées de secousses sismiques les ont redressés. En ces temps, j'étais là, obscur, sûr de moi-même, implacable. Qui suis-je ? Le tronc du châtaignier de Chassel-Arnaud a plus de 5 mètres de circonférence et plus de 600 ans d'âge. Ses branches latérales se ramifient de manière désordonnée, comme des bras démantibulés. Les couches cellulosiques du tronc, serrées les unes contre les autres, se redressent à la verticale, pointant vers le ciel. Les sèves circulent de bas en haut et de haut en bas. Des milliers de feuilles fabriquent cellulose, acide aminé et acide gras. Je suis là, obscur, sûr de moi-même, implacable. Qui suis-je ? La colonne de fourmis a 20 cm de largeur. Des centaines de fourmis vont dans un sens et des centaines d'autres dans l'autre sens. Alors que les premières ne portent rien, les autres, seuls ou à plusieurs, transportent des chenilles, des papillons, des mouches, des graines, des fragments de feuilles et des brindilles. Un bruissement continu monte de la colonne. Je suis là, obscur, sûr de moi-même, implacable. Qui suis-je ? Le DJ est derrière son pupitre, manipulant ses dizaines de boutons. Devant lui, 30 000 personnes sautent sur place, se déhanchent, balancent leurs bras de gauche à droite et de droite à gauche. Tous sont là pour communier, tout en se décapsulant la tête et en se vidant les neurones. Des vagues parcourent une foule jeune, joyeuse et multicolore. Étincelles, fumées colorées, faisceaux lumineux entrecroisés et sons électroniques se succèdent sans relâche. Je suis toujours là, obscur, sûr de moi-même, implacable. Qui suis-je ?
Thank you.
Drumana, la débrouille. Vous savez, dans la vie, il faut savoir se débrouiller. Pourquoi faut-il savoir se débrouiller ? À cause de l'amour. Eh oui, toujours. Toujours l'amour. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, pour moi, l'amour nécessite la débrouille. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, comme bien sûr vous le servez en personne avertie que vous êtes, il faut attirer l'autre sexe. Le problème que j'ai, c'est que pour moi, l'autre sexe ne peut pas se déplacer. Et complications supplémentaires, moi aussi, je ne peux pas me déplacer. Nous voudrions bien tous les deux, mais nous ne le pouvons pas. Vous allez me dire, ah ben en effet, c'est plutôt embêtant. Mais il y a la débrouille. Et la débrouille, c'est trouver une solution. Et la solution, c'est trouver un intermédiaire, un passeur de sexe, qui, lui, pourrait se déplacer. L'astuce, c'est de faire comprendre à cet intermédiaire qu'il va pouvoir lui aussi faire l'amour en venant me voir. Je vois que vous pensez, c'est dur pour lui. Il va être déçu en découvrant qu'il se trompe de partenaire. Eh bien non, car j'ai tellement bien dessiné sa femelle préférée sur mon propre corps qu'il croit réellement faire l'amour avec elle. Je vais même jusqu'à utiliser la notion de supra-déclencheur du comportement sexuel. J'ai représenté sur mon corps une super nana de son espèce, un leurre, avec lequel il essaye de s'accoupler. C'est même incroyable comment il s'acharne, je dis « il » au pluriel, car ils sont plusieurs à être attirés par ma super nana. D'autant que débrouille pour débrouille, je diffuse autour de moi l'odeur de cette super nana. Car vous savez, ces mâles intermédiaires sont incroyablement performants en ce qui concerne les odeurs. Ils sont capables de remonter le courant odoriférant d'un parfum sur plusieurs kilomètres de distance. Vous allez me dire, d'accord, d'accord, vous avez trouvé votre intermédiaire, mais je ne comprends toujours pas comment vous pouvez faire l'amour avec votre partenaire sexuel puisque ni lui ni vous ne pouvez vous déplacer. Eh bien, c'est là où je mérite mon surnom de Drumana, prince de la débrouille. Pendant que l'intermédiaire s'accouple sur moi avec la fausse super nana, je lui flanque en douce sur la tête mon pénis et mes testicules. Excusez-moi, je devrais plutôt dire mes polynies. Au bout d'un certain temps, mon intermédiaire est lassé que son accouplement ne parvienne pas à sa fin, à moins qu'il ne s'imagine avoir réussi. De toute façon, il s'envole, car bien sûr, il vole, et même très bien. Porteur de mon appareil sexuel mâle, il va être attiré par mon comparse, car j'ai un comparse avec lequel j'ai signé des accords, situé à quelques centaines de mètres, et qui a aussi dessiné sur lui une super nana. Mon comparse, pendant que mon intermédiaire s'acharne à se coupler, se débrouille pour que mon appareil sexuel mâle se colle sur son appareil sexuel femelle. Plus précisément, mes spermatozoïdes, appelés noyaux reproducteurs, sont dans des tubes qui parviennent aux ovaires de mon comparse et, hop, hop, ces ovules sont fécondés. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que dans la famille Drumana, nous sommes tous hermaphrodites, mâles et femelles en même temps. Encore une autre façon de se débrouiller en amour. Comment ? Que me dites-vous ? L'intermédiaire mâle qui s'accouple avec sa super nana ne revient pas vous voir, donc il ne peut pas vous féconder avec vos propres éléments mâles. Alors là, vous avez parfaitement raison. Mais mon comparse, cet autre moi-même, colle lui aussi ses testicules et son pénis sur la tête d'un autre intermédiaire qui, lui, vient me voir. Et hop, hop, je suis fécondé et le tour est joué. Et voilà comment alors que ni vous, ni votre partenaire sexuel ne pouvez vous déplacer, vous pouvez quand même rejoindre le grand courant de la vie. Je vois que vous êtes prêt à admettre que je suis le prince de la débrouille. Mais je vais vous donner un autre argument pour mériter ce titre. D'accord, je suis fécondé. J'ai des bébés nombreux, car chez les Drumana, de mémoire historique et préhistorique, on a toujours eu de nombreux bébés. Mais ces bébés, ou plutôt ces graines de bébés, il faut les nourrir, il faut qu'ils grandissent. Eh bien, je me suis débrouillé pour conclure un accord avec un champignon. Il a accepté d'envoyer ses filaments mycéliens dans mes graines de bébés, qui reçoivent ainsi des acides aminés, des sels minéraux et de l'eau. En contrepartie, mes bébés devenus grands lui donnent des bonbons, ou plutôt du glucose, car mes bébés, comme moi-même, nous sommes photosynthétiques. Notre Dieu est le soleil. Astucieux, n'est-ce pas ? Je reconnais que je suis très fier de moi. Peut-être voulez-vous savoir le nom du prince de la débrouille. Je vous l'ai dit, c'est Drumana, mais mon nom complet, c'est Ophrys Drumana ou Ophrys de la Drôme, prince de la débrouille, seigneur des orchidées.